Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, nous fêtons la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints, tous ensemble, tous ceux qui sont inscrits dans le calendrier, c'est-à-dire, je ne suis pas très bon en maths, mais il y en a entre 10 et 20 par jour, vous multipliez par 365, ça fait un certain nombre, et puis il y a tous ceux, ça c'est ceux que l'Église nous donne en exemple, qu'on connaît, dont on connaît le nom, et puis il y a, comme le dit saint Jean, la foule innombrable de ceux qu'on ne pouvait compter, autour du trône de l'agneau. Voilà, tous ces saints, nous les fêtons ensemble. Comme je vous l'ai dit en commençant cette messe, le mois de novembre, c'est le mois de la glorification des enfants de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Voilà pourquoi nous commençons par... pas moi qui ai dit ça, hein, c'est saint Irénée. Voilà pourquoi nous commençons par les saints aujourd'hui. Demain, ceux qui sont morts, qui attendent de voir la face de Dieu, c'est le purgatoire. Et nous finirons avec le Christ roi, ce règne de Dieu dans tous les cœurs, dans tout le monde, pour la fin du monde. Fêtons donc aujourd'hui la fête de tous les saints. Je vais très simplement le voir en deux temps, comme l'Écriture nous l'a proposé, dans l'ordre où nous l'avons entendu. D'abord, je vais vous parler du ciel, et ensuite, c'est ce que la première lecture nous a donné de contempler, et puis ensuite, je vais vous parler des moyens pour arriver au ciel, c'est-à-dire des béatitudes. Tout d'abord, le ciel. Qu'est-ce que le ciel ? Eh bien, c'est le but de toute notre vie. Voyez-vous, le ciel qui a beaucoup de noms dans l'Écriture. Évidemment, on est d'accord que c'est une image biblique que nous utilisons, c'est ce qui nous dépasse. Le ciel, c'est ce qui est au-dessus de nous, donc c'est ce qui est ici. Voilà pourquoi dans une belle église comme ici, on a représenté le ciel avec des saints, avec des anges, avec une envolée. Mais nous ne sommes pas idiots. Nous savons bien que si nous avions une grande échelle pour arriver jusque-là, nous en avons une d'ailleurs, hein, pour arriver, une nacelle pour arriver au, je ne sais pas combien il y a de mètres pour aller là-bas, mais ce n'est pas ça le ciel. Et nous savons que quand nous parlons du ciel, du royaume des cieux, de la noce éternelle, c'est à chaque fois une image que nous employons. Nous savons que le ciel, c'est ce dépassement du temps, ce dépassement de l'espace, ce dépassement de notre propre vie auquel nous sommes appelés. C'est ça le ciel, ce dont celui-ci n'est qu'évidemment une pauvre image. Je crois que on avait demandé à Gagarine, quand il est allé dans l'espace, qu'il est donc allé au-delà des cieux, on lui a posé une question, vous le savez, c'est un pouvoir matérialiste qu'il y avait envoyé, et donc tout ça était convenu. Dès qu'il est descendu, la première question qu'on lui a posée, évidemment c'était un commissaire politique qui lui a posé, et la réponse était déjà écrite sur le papier, il l'a raconté lui-même plus tard, il a dit combien il avait été fâché d'être obligé de dire ce qui était écrit. On lui a dit, alors, vous êtes allé dans les cieux, est-ce que vous avez vu Dieu ? Hein ? Et alors il a répondu, non. Voilà, très sobrement, on lui avait proposé de dire quelque chose, il a dit, non. Évidemment, ce n'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est au-delà des étoiles, c'est au-delà de notre monde créé, c'est ça le ciel. Cette éternité à laquelle nous sommes appelés, la béatitude. Et nous en avons un indice. Tous les hommes, de tous les temps, de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les religions, ont dans le cœur le désir du bonheur, le désir d'être heureux. Ce désir qui dépasse infiniment l'homme, qui est un appel spirituel de son âme, il est présent partout. Eh bien, le ciel, c'est cette béatitude qui est achevée. Non pas que nous ne puissions pas être heureux sur terre, mais nous ne pouvons que goûter le bonheur. Nous ne pouvons pas en jouir parfaitement, nous ne pouvons pas le posséder, car la béatitude, le bonheur, c'est la plénitude de l'être. Voyez-vous, on se trompe gravement en croyant que l'organisation de notre vie, la loi, et même la loi morale, et même la loi de Dieu, et même la loi liturgique, n'auraient pour but que de faire de nous de bons chrétiens. Eh bien, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais ça le dépasse infiniment. Toutes ces règles, toutes ces normes, toutes ces directives ont pour but de nous diriger vers Dieu, de nous amener à la plénitude de notre bonheur, de nous amener à la plénitude de l'être. Le bonheur, c'est de contempler la vérité, dit saint Thomas d'Aquin, c'est de se réjouir de la vérité, c'est-à-dire de posséder enfin l'être essentiel, l'être vrai qui est Dieu et pour lequel j'ai été fait. Et oui, Mon cœur n'a de repos, pour citer cette fois-ci saint Augustin, que quand il reposera en Dieu. Bien sûr, ici-bas, je peux contempler quelque chose de Dieu, je peux connaître le bonheur, je peux connaître des parts de bonheur, mais je ne peux le posséder pleinement, entièrement, sous peine de me tromper gravement, car mon bonheur, il est infini, et j'ai été fait pour cet infini. Ne vous laissez pas réduire à des bonheurs terrestres qui ne pourront jamais combler votre cœur. Je ne les méprise pas, bien entendu, je ne méprise aucun des plaisirs de la vie, aucun des bonheurs qui nous sont donnés de pouvoir jouir de la présence des autres, de leur amitié, de leur amour, mais je suis appelé à un amour plus grand. Et dans la béatitude, nous aurons deux bonheurs essentiels. D'abord, un bonheur d'essence, pour faire un peu de théologie quand même, hein, c'est sérieux, eh bien, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu que nous posséderons. C'est assez incroyable, c'est-à-dire moi qui ne suis qu'une créature, qui ne suis qu'un être tremblant, qui ne suis qu'un être qui passe, je vais m'inscrire en Dieu. Et oui, la béatitude ne sera pas, comment dirais-je, comme un retour à une espèce d'énergie première où le petit être que je suis serait plongé dans l'éternité comme on plonge une goutte d'eau dans la mer, c'est-à-dire on la dilue. Non, je suis un être personnel, il n'y a pas deux âmes identiques, il n'y a pas deux personnes identiques, et même chez des vrais jumeaux, même chez des sosies parfaits, eh bien, chaque âme est individuelle, personnelle. La personne de chacun est éternelle, la personne de chacun est unique, c'est d'ailleurs le signe qu'elle est voulue pour elle-même, et donc cette âme pourra contempler la face de Dieu. Et puis, il y a un plaisir, il y a une joie accidentelle, dit la théologie, c'est-à-dire à côté, c'est la joie de connaître les autres. Tous ceux qui seront plongés en Dieu seront également présents. Car la béatitude, le paradis, c'est le rassemblement de tous les saints. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui, cette unité merveilleuse qui n'est pas une unité d'uniformité, car il n'y a pas deux saints pareils. Voyez-vous, quand on voit des criminels, on peut faire des catégories, on essaye de faire des catégories avec les saints. Mais qu'y a-t-il de commun entre Mère Teresa et Sainte Thérèse d'Avila? Qu'y a-t-il de commun entre Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne? Trois saintes qui ont vécu trois spiritualités complètement différentes, trois vies complètement différentes. Il n'y a rien de commun entre elles, sinon le bien, et le bien auquel elles se sont vouées, qui est Dieu. Dans l'éternité, tout existe, car en Dieu, rien n'est limité, il est éternel et illimité. Dans la béatitude, nous habiterons les uns avec les autres. La plus belle représentation du ciel que je connaisse, nous la devons à Fra Angelico, qui a peint, c'est un des rares saints, un des rares peintres qui a été déclaré saint, il n'y en a que deux, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper, bon, trois, parce qu'il faut compter Saint-Luc, qui devait être peintre également, mais en tout cas, il y en a un dans l'orthodoxie, c'est Andrei Rublev qui a représenté la Trinité, et puis Fra Angelico, un dominicain du XIVe siècle, qui a représenté, vous connaissez peut-être ces tableaux, le couronnement de la Vierge qui est au Louvre, où on voit tous les saints agglutinés tout en bas autour du trône de l'agneau et qui descendent sur les marches du Seigneur. Et puis il y a cette magnifique ronde des saints où vous voyez un saint, un ange, un saint, une sainte, un saint qui se donnent la main les uns les autres, chacun dans un habit différent. Oui, au ciel, nous serons unis à Dieu et donc unis à tous ceux qui sont unis à Dieu. Il n'y aura plus de distance. Nous pourrons visiter tout un chacun chaque jour. Mais bien entendu, nous aurons une personnalité, une propriété propre avec ceux qui nous sont déjà liés ici, car la vie éternelle, elle est déjà commencée. Le royaume de Dieu qui vous est promis, c'est déjà celui dont vous vivez maintenant, c'est-à-dire dans votre mariage, dans votre donation à l'Église, dans la donation de votre vie, dans votre famille, dans vos parents, dans vos amis, partout où vous êtes donné, partout où votre cœur est posé dans le bien, eh bien, c'est déjà la vie éternelle qui commence, c'est déjà cette vie-là dont nous vivrons éternellement. Il y aura des grands, il y aura des petits, personne ne sera malheureux, car car nous serons tous pleinement comblés selon notre être. Voilà, c'était mon premier point, et peut-être le plus difficile à concevoir, car nous ne pouvons en avoir qu'une entrevue, comme nous l'a donné l'Écriture dans cette lecture magnifique que je vous invite à méditer. Il y a un trône, l'agneau, il y a 144 000 élus, ne vous laissez pas tromper par le nombre. Vous le savez, les témoins de Jéhovah, par exemple, aiment à vous répéter qu'il y a 144 000 élus. Bon, si vous en avez qui vous disent ça, vous pouvez leur dire que, d'une part, ils ne sont pas très honnêtes parce qu'ils n'ont pas lu la deuxième partie. Les 144 000, ce sont des tribus d'Israël. Et puis, il y a la multitude de toutes les nations qui sont ensuite, c'est-à-dire nous. Il n'y a pas de limitation. J'avais dit, d'ailleurs, non sans humour une fois, un témoin de Jéhovah qui me disait ça, 144 000, bigre, ça ne fait pas beaucoup. Je crois que vous êtes déjà 2 millions chez les témoins de Jéhovah. C'est peut-être pas la peine de continuer de recruter. Vous avez déjà votre quota. Bon, alors, plus sérieusement, hein, les saints, évidemment, et je finirai mon point là-dessus, ce sont ceux que Dieu a sanctifiés. Dieu seul est saint, nous l'avons chanté dans le psaume. Dieu seul est saint, je le redirai dans la dernière prière, dans la collecte de fin, celle qui rassemble. Eh bien, si Dieu seul est saint, nous tous, nous allons être sanctifiés de sa sainteté. C'est pourquoi nous avons raison d'avoir mis ici Saint Jérôme, Sainte Barbe, la Vierge Marie et Saint Joseph, et puis tous les saints qui peuplent notre Église, ici déjà en image, et qui peuplent le ciel. Ils n'ont pas été impeccables, sauf la Vierge Marie, en raison d'un privilège nécessaire pour sa mission. Tous les saints ont été pécheurs. Il ne s'agit pas de transformer un homme ou une femme qu'on a pris en disant « celui-ci a été extraordinaire ». Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a été sans péché. Et pour nous, c'est important, car moi aussi je suis appelé à la sainteté, et je sais bien en me regardant que je ne suis pas sans péché, mais ça n'empêchera pas le Seigneur de me sanctifier. Dieu seul est saint. Mais voilà, avec ma coopération, et c'est mon deuxième point, sera plus court, je vous rassure, car en quelque sorte il est plus simple presque, c'est comment moi je vais comprendre le chemin vers Dieu. Comment je vais comprendre le chemin de cette sanctification? Eh bien le Christ l'a enseigné à ses disciples dans les Béatitudes. C'est difficile les Béatitudes. Il est plus simple de lire la loi et de remplir chaque trait de la loi, laquelle existe toujours. Tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tous les commandements restent valables, tous ceux que la morale nous enseigne, en dehors des commandements liturgiques qui sont passés. Donc tous ces commandements restent. Et le Seigneur va en donner un autre commandement, les béatitudes. Ces béatitudes, pour la comprendre, il faut remplir les trois conditions qui sont marquées dans l'Évangile. Hein. D'abord, il faut aller sur une montagne, c'est-à-dire se mettre un petit peu en retrait. Ensuite, il faut être dans le calme, c'est-à-dire il faut écouter le Seigneur s'asseoir. C'est pour ça que vous êtes assis, hein. Position d'autorité qui vous permet d'être dans le calme et de recevoir la parole qui vous est donnée. Enfin, il faut s'approcher du Seigneur, c'est-à-dire lui parler. Pour s'approcher de quelqu'un, il faut échanger avec lui et lui parler cœur à cœur. Alors si vous remplissez ces conditions, vous allez pouvoir vraiment lire les béatitudes. Il y en a 8, vous les avez entendues. Le cœur pur. Les pauvres de cœur, j'ai du mal à me lire. Ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les cœurs purs. Ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qu'on insulte, et les artisans de paix. Voici les 8 béatitudes. Ces 8 béatitudes, il ne faut pas croire que c'est pour demain. On a parfois fait dire au christianisme, le christianisme est une religion de consolation, parce que les gens sont très malheureux, alors on leur dit, si vous pleurez, si vous êtes persécutés, c'est tant mieux, vous serez heureux demain. C'est une mauvaise compréhension des béatitudes. Oui, dans les béatitudes, il y a 6 demandes qui sont au futur. Mais les 2, la première et la dernière, sont au présent. C'est-à-dire que les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux maintenant. Et puis, ceux qui sont accusés faussement, qui sont insultés, eh bien leur récompense, elle est grande maintenant dans les cieux. Nous le savons, la vie éternelle, c'est pour maintenant. Nous le savons aussi, La vie éternelle n'est pas achevée en nous. Nous sommes des pèlerins et petit à petit, nous allons gagner le ciel. Nous allons nous introduire au ciel grâce à Dieu. Mais vous allez me dire, est-ce que ces béatitudes sont réalisables ? Est-il possible d'être pauvre de cœur, de pleurer, d'être doux, d'avoir faim de justice, d'être artisan de paix, d'avoir le cœur pur, d'être persécuté pour la justice, d'être insulté et accusé ? Eh bien non, en un sens, ce n'est pas possible. Mais rassurez-vous, ce n'est pas vous qui allez réaliser tout cela. C'est le Christ qui l'a réalisé. Le Christ l'a déjà réalisé. C'est lui qui est pauvre de cœur. De Dieu qu'il était, il s'est fait homme. C'est lui qui a pleuré sur les hommes, sur Jérusalem. C'est lui qui est doux et humble de cœur, qui s'est mis à notre portée, qui n'a pas condamné le pécheur. C'est lui qui a faim et soif de justice, lui qui la possédait mais qui l'a voulu pour nous. C'est lui qui a le cœur pur, car aucun péché n'y est jamais entré. C'est lui qui est artisan de paix des deux peuples, des juifs et des païens, il n'en a fait qu'un seul. C'est lui qui a été persécuté pour la justice, il a été mis en croix, injustement. Enfin, c'est lui que l'on a insulté et que l'on a persécuté à cause de Dieu lui-même. Alors, mes bien chers frères, c'est une grande joie de savoir que le Christ a déjà rempli la loi pour moi. Et moi, autant que je pourrai, avec mes faibles forces, avec mon faible désir, je vais, de temps en temps, essayer d'être doux, de temps en temps, être artisan de paix, de temps en temps, pleurer avec ceux qui pleurent. Bref, de temps en temps, dans mes faibles mesures, prendre une petite part de l'existence du Christ. Voilà ce que c'est qu'être chrétien. Ne vous y trompez pas. C'est comme cela que le Christ est en train de vous sanctifier. C'est comme cela qu'il est en train de vous glorifier. C'est comme cela qu'il est en train de faire de vous des vivants. Qu'advienne son règne, que nous nous réjouissions des saints du ciel, qu'avec leur aide et leur intercession, nous puissions vraiment trouver nous aussi ce chemin bienheureux. Ainsi soit-il.